Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vivante Église du jour, Fraternité, un acte du bon samaritain à la question de Pierre. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Combre, diacre pour le diocèse de Toulouse et en mission dans le service de la diaconie, ainsi que le père Mickaël et madame Mélissa Bougui. Bonjour Sébastien Combre.
Bonjour.
Alors, diacre pour le diocèse de Toulouse et vous êtes donc responsable du service de la diaconie. Vous êtes entouré ici dans ce plateau de Vivante Église du père Jean-Marie Mickaël et de Mélissa Bougui. Bonjour père Jean-Marie Mickaël.
Bonjour.
Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez été nommé il y a un certain temps, mais vous ne l'êtes plus, nommé à la pastorale de la santé et vous avez traversé, c'était il y a quelques années, l'épreuve de l'hospitalisation peu de temps après cette prise de fonction. Cette expérience personnelle vous a amené à vivre de l'intérieur ce retournement dont nous allons parler peut-être au cours de cette émission de Vivante Église. Vous-même, Mélissa Bougui.
Oui,
c'est un premier passage ici,
oui.
À la radio. Vous êtes un peu impressionnée.
Oui.
Un peu impressionnée. Vous êtes, vous, responsable de la pastorale des migrants. Vous accompagnez aussi, à travers cette pastorale, ces nombreuses personnes que vous côtoyez, que vous écoutez et que vous orientez. Et on pourra vous découvrir dans quelques instants. Sébastien Combre, pourquoi avoir choisi le père Mickaël ici présent et Mélissa Bougui pour ce plateau Vivante Église en lien aussi avec, et je le rappelle aussi en ce début d'émission, une encyclique qui était parue en 2020 du pape François, Fratelli Tutti.
Eh bien parce que il fallait prendre un axe et quand on a réfléchi quel axe on pourrait prendre pour cette émission, on s'est dit que nous allions choisir celle du bon samaritain, et dans le bon samaritain, comment finalement on nous sommes invités à changer de regard. La question qui est posée à Jésus, c'est qui est mon prochain, et donc qui je dois aimer, et Jésus il inverse la question en disant mais qui. Et finalement, la question, c'est qui m'a aimé ? Et on se rend compte qu'à la diaconie, on opère souvent ce basculement et que souvent les gens y viennent à la diaconie en disant « je veux servir, j'aimerais distribuer des repas, j'aimerais donner des comptes français, j'aimerais accompagner des malades, etc. » Et en fait, assez rapidement, les gens ils disent « je reçois autant que je donne et peut-être même parfois plus. » Et finalement, se sentir aimé, se reconnaître aimé, c'est une vocation, c'est une vocation baptismale, plus presque autant, et moi je dirais que celle de servir. Voilà. Jésus il nous invite à une relation au frère, une relation à l'autre, et dans cette relation à l'autre, il y a une réciprocité. J'aime, mais je me reconnais aimé. Et c'était ce retournement-là qu'on voulait. Dont on voulait parler pendant cette émission. On va tenter de le faire.
Tout à fait, on va tenter de le faire. Et je me tourne vers vous, père Jean-Marie Mickaël. Vous avez vécu donc une expérience qui a été une expérience dans votre parcours de vie, votre parcours aussi de prêtre, père Mickaël. Une expérience avec un véritable retournement, puisque vous avez été hospitalisé. Et nous allons écouter un petit peu cette expérience, qui est une expérience qui est forte, qui a changé l'homme que vous étiez et que vous êtes aujourd'hui. On vous écoute et merci.
Alors effectivement, l'expérience que j'ai vécue, cette très longue maladie et très très grave, m'a fait découvrir d'une toute autre manière justement cette parabole du bon samaritain. C'est au moment où j'ai été nommé responsable des aumôneries de cliniques et d'hôpitaux et accompagnateur de l'équipe de Purpan. J'étais dans cette démarche, en quelque sorte, d'être moi-même le bon samaritain qui va rencontrer des personnes, en l'occurrence des personnes fragiles, des personnes malade, et j'étais dans cette démarche qui est une démarche louable, Et puis, l'épreuve de la maladie m'a fait découvrir tout autre chose. Et c'est vrai que ça a été pour moi un véritable renversement, parce que j'ai découvert que finalement, j'étais moi-même le blessé qui était au fond du fossé. Et donc, il y a des bons samaritains, à savoir les soignants, les médecins, les infirmières, qui se sont penchés sur moi, qui m'ont soigné, qui ont versé de l'huile, si je puis parler ainsi, et qui ont pris soin de moi. Voilà. Et ça, c'est sûr que pour moi, c'est une révolution copernicienne. Voilà, j'utilise ce mot. Et pour compléter ce que dit Sébastien il y a un instant, je crois que le prochain, qui est mon prochain, n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est sois toi-même, deviens toi-même le prochain de ceux que tu rencontres. Et là, on ne choisit pas. Si je me pose la question qui est mon prochain, alors je vais dire c'est un tel, c'est ce que je connais, puis un peu plus loin, c'est ce que je connais moins, etc., etc. Je vais bâtir une théorie sur l'amour du prochain abstraite. Mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est deviens toi-même le prochain de celui ou celle que tu rencontres.
Vous avez envie de réagir, Mélissa?
Oui, en effet, c'est comment nous-mêmes devenir le prochain de tous ceux que le Seigneur nous amène, tous ceux qu'on rencontre. Je peux partir d'un témoignage. J'avais quelques histoires avec ma sœur et je rentrais à l'église du Thor à l'époque et j'ai dit, je ne vais pas prier pour elle aujourd'hui parce que vraiment... Et dès que je suis entrée dans l'église, y a cette parole-là qui m'a frappée au cœur comme ça. Pourquoi veux-tu choisir ce que tu aimes? Aime tout ce que je te donne. Mon Dieu, je me suis dit, Seigneur, tu m'as attrapée là. Et j'ai compris que je ne devais pas choisir. Déjà, c'est ma sœur, parce que je suis un peu en colère, je ne veux pas prier. À plus forte raison, trier ceux qui me ressemblent, ceux qui pensent comme moi. Non, mon prochain, c'est tout le monde. Et moi, autant je veux être accueilli par tout le monde, autant je dois accueillir tout le monde.
Alors, vous avez aussi votre parcours personnel, oui. Mélissa. Vous avez aussi votre mission actuelle. Comment vous vivez ce lien entre l'expérience vécue en pastorale et puis votre propre expérience, votre expérience de vie qui vous a conduit aussi à prendre et accepter, à dire oui pour cette mission pastorale, puisque je le rappelle, vous êtes responsable pastorale des migrants, donc au sein et au cœur du service de la diaconie, donc pour ce diocèse de Toulouse.
C'est à la fois aisé et en même temps très difficile. Aisé parce que comme j'ai vécu beaucoup de choses, comme je vis toujours beaucoup de choses par rapport à l'accueil, à l'intégration, tout ça, quand on est étranger dans un autre pays. Donc il y a certaines réalités qui nous dépassent ou parfois qui peuvent nous frustrer. Et en même temps, très difficile parce que quand je vois les autres vivre ces mêmes réalités-là qui sont difficiles, j'ai un peu la boule au ventre parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, j'apporte ma petite contribution. Moi, c'est offrir un sourire, l'amitié, aimer tout le monde sans trier, montrer que j'aime les personnes, même si elles sont, voilà, ne pas les faire culpabiliser. Mais bon, voilà, c'est facile pour moi
avez,
parce que...
Vous avez dit que vous étiez parfois frustrée, oui. Parce que démunie oui. Face à la détresse, aux blessures de la vie.
Oui, face à la détresse, face aux réalités qui ne sont pas toujours... Parce qu'on... Je comprends la parole du Seigneur qui nous demande toujours d'accueillir le... On nous dit que le Seigneur est le père des pauvres, des orphelins, des étrangers, des veuves. Je le comprends. Il y a une part de fragilité dans ces personnes-là. Donc, vraiment, quand on est à l'étranger, tout ce qu'on recherche, c'est d'être accueilli. Et puis après, aller plus loin. Mais... Parfois, ça coince.
C'est la peur du prochain qui peut être parfois un frein, un barrage à la rencontre et à l'accueil. La peur de la différence.
Là, quand je parle de peur, c'est chez les autres. Ce sont les autres qui ne nous accueillent pas simplement comme eux-mêmes. Parce que l'accueil, c'est ça, c'est accueillir l'autre comme lui-même, comme soi-même, pardon. Pas, donc.
Vous avez envie de réagir, Sébastien?
Oui, bah, c'est vrai que l'accueil doit être réciproque et que souvent, quand cette histoire de retournement, toujours quand on voit quelqu'un dans la rue, quand on voit un camp de gens du voyage, parfois, soit on a peur et on fuit. On se dit, bon, bah, c'est pas mon affaire, ça va me prendre du temps. Et puis des fois, on a même cette expérience-là où on parle avec quelqu'un qui est dans la rue et puis on se rend compte que si on veut faire les choses bien, ça va nous prendre 1 heure, 2 heures et on n'a pas forcément toujours cette heure ou cette 2 heures. Et donc, soit on fuit, on se met, on se dit, comme le bon samaritain, on va y aller, et puis on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir résoudre leurs problèmes? Et puis, super, on se prend un peu pour les maîtres du monde, je ne sais pas comment dire, ou le sauveur, parfois, le sauveur. Et l'attitude à laquelle Jésus nous invite, c'est de nous mettre à leur portée, de nous mettre à l'écoute et de dire mais comment je me fais aimer par celui que le Christ m'envoie et celui qui me dit je suis présent, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, et puis ce que tu n'as pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Que je vienne en aide ou que je ne vienne pas en aide à cette personne malade qui a faim, qui a été visitée, qui est en prison, etc. Là, je reprends tous les termes de Matthieu 25, le Christ est présent, le Christ se présente à moi, que je lui vienne en aide ou que je ne vienne pas en aide à cette personne. Après, c'est mon choix de le rencontrer ou de ne pas le rencontrer. C'est ce que je veux dire, c'est pas parce que je lui viens en aide que je fais advenir le Christ. Il est là, déjà. À l'hôpital, par exemple, quand on rentre dans une chambre d'hôpital, par exemple, quand on est diacre, quand on est prêtre, on aurait tendance à se dire je vais faire église quand je rentre dans la chambre d'hôpital parce que je représente l'église et je fais rentrer l'église dans la chambre d'hôpital, alors que l'église est où le Christ est, et le Christ il est dans la personne qui est malade. Et en fait, finalement, quand nous rentrons dans une chambre d'hôpital, nous rencontrons l'église, nous rentrons dans l'église, et c'est pas le contraire qui vient. Et cette démarche là c'est une conversion qui nous fait grandir. Enfin, voilà, c'est une façon de voir les choses qui vraiment nous fait grandir et qui nous permet de rentrer dans une relation avec l'autre qui est plus juste, il me semble.
Vous avez envie de réagir, Père Mickaël?
Alors, moi, je ne veux pas me lancer, ce n'est pas l'objet dans une exégèse de la parabole du bon samaritain, mais je veux quand même souligner quelque chose, parce que c'est vrai que cette parabole, j'ai beaucoup réfléchi dessus à partir de mon expérience. L'attitude du prêtre et du lévite, alors on leur tombe dessus en disant bon, bien sûr, ils sont passés à côté, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que ils réagissent en fonction, je dirais, du système religieux dans lequel ils sont. Or, s'ils avaient été au secours de cet homme qui était dans le fossé, ils auraient contracté une impureté rituelle. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc on voit que cette parabole du bon samaritain, justement, elle vient briser ce système religieux, elle vient faire éclater toutes ces distinctions religieuses pour aller à l'essentiel, à savoir que quel que soit l'homme qui est dans le fossé, quel qu'il soit, c'est un être humain. C'est un être humain. Et donc, il y a un devoir de fraternité, quel qu'il soit. Voilà. Moi, je suis... Enfin, donc c'est important de souligner ça.
Pour vous, Mélissa Bougui, quand on quitte aussi son pays, qu'on perd un peu, je l'imagine, beaucoup de points de repère, comment vous-même, dans cette charge que vous avez, vous accompagnez toutes ces personnes migrantes dans cette reconstruction dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, et parfois aussi dans leur choix, dans leur orientation, des personnes qui ont parfois été déracinées et qui sont profondément peut-être aussi fragilisées par ce déracinement que vous avez vous-même connu?
C'est là notre mission importante, parce qu'il ne m'appartient pas de changer les personnes ou de leur faire adhérer à une nouvelle culture. Je les accueille, nous les accueillons telles qu'elles sont, pour qu'elles nous livrent ce qu'elles sont en vérité, pour qu'elles puissent s'épanouir comme elles sont. Donc, je pense que on n'a pas besoin de les changer.
Quelle est la difficulté? Quel est le défi de l'accueil?
C'est vrai que parfois, les traditions, les cultures sont différentes. Parfois, il y a le barrage de la langue. Mais on arrive à se comprendre par des gestes, par le regard. Et je me dis, l'Église nous unit, étant donné qu'on partage cette foi chrétienne, la catholique, cette foi chrétienne. Ça nous unit, parce que lorsqu'on fait des partages, par exemple, de la Bible, même si c'est dans différentes langues, on se rejoint dans l'amour de Dieu.
Parce qu'on parle de l'accueil et de l'accompagnement de ces personnes, parfois déracinées, qui ont parfois un peu tout perdu et qui arrivent en terre inconnue. Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez?
Nous, justement, notre mission, je suis d'ailleurs avec M. Jean-Louis Reland et Père Anand Cujur, un père blanc qui nous accompagne aussi. Nous sommes chargés de faciliter leur intégration au niveau des paroisses. Notre rôle, c'est de leur permettre des temps de rencontre, des moments festifs, des moments de prière, des moments de partage, d'échange, de lecture, de divertissement, tout ça, pour qu'ils sachent que, étranger ou pas, tu es mon frère et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour, d'autant plus que je sais que tu es déraciné, tu es seul. Voilà, ne sois pas seul, viens. C'est ça que c'est ce que nous partageons.
Merci Mélissa. Sébastien.
Et là, dans la pastorale des migrants, Mélissa, il y a une dimension importante auprès des paroisses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette dimension d'aller vers les migrants, mais il y a aussi cette dimension de permettre aux paroisses, de permettre aux paroissiens d'accueillir la richesse, pas pour les migrants, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu du gaspillage, moi j'ai envie de dire. On a des expériences, on a des gens qui sont disponibles, qui ont envie de donner. On a des expériences. Parfois ils ont le feu, les catholiques qui viennent d'Afrique, souvent ils ont le feu. Mélissa, elle a
envie
sourire.
De réagir. Vous allez réagir.
Et en France, parfois ils dépriment un peu. Et ce feu là, c'est un peu dommage de l'éteindre, quoi. Donc il y a vraiment dans la pastorale des migrants cette dimension de dire venez, voyez, regardez. Nos amis migrants, s'ils s'engagent dans votre paroisse, ça va mettre le feu. On a certaines expériences où quand ils animent la musique, c'est extraordinaire, quoi.
Là, je vois que Mélissa, vous avez envie de réagir.
Je parlais de frustration, justement. C'est comme quelqu'un qui vient avec des paquets et personne n'en veut. Donc il se retrouve. Il dit mais pourquoi, alors que c'est de bonnes choses que je veux partager avec les autres. Mais bon, on me regarde bizarrement, je suis différent, on me veut pas et ça frustre, ça fait mal.
Je pense que c'est un petit peu comme l'accueil et l'accompagnement des nouveaux baptisés dans les paroisses. Il y a là un grand défi et ce n'est pas gagné à l'avance, parce qu'il ne s'agit pas de dire venez, on vous accueille, on est très content, mais il s'agit de que les communautés chrétiennes se laissent bousculer. Il faut qu'elle se laisse transformer, il faut qu'elle bouge. On le voit bien pour les nouveaux baptisés, mais toute proportion gardée, c'est vrai aussi pour les migrants qui sont accueillis dans les communautés. Et c'est là qu'on rejoint le feu. Il faut que ce feu soit communiqué aussi aux paroissiens.
Alors moi je vous propose tous les trois de vous retrouver pour la deuxième partie de ce magazine Vivante Église, le temps d'une plage musicale. Et si vous le voulez bien, je vais vous lancer à tous les trois comme défi de mettre le feu dans ce Vivante Église, pour feu là où il n'y a peut-être plus le feu. Voilà, donc à tout de suite, restez avec nous et puis avec le sourire, et merci à tous les trois.
Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. La n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine Vivante Église, Fraternité en acte, du bon samaritain à la question de Pierre, à qui irions-nous, vers qui allons-nous aller, peut-être après avoir écouté ce Vivante Église du jour, des invités en plateau. Je vous remercie à tous les trois, Mélissa, Sébastien et puis vous-même, Père Mickaël, qui êtes toujours en exercice dans votre mission de prêtre, voilà, dans la distribution aussi des sacrements. Est-ce que dans vos missions respectives, vous avez une manière différente mais complémentaire de servir le Christ auprès des plus petits? Mélissa. Toujours avec le sourire, et toujours avec cette joie au cœur.
Moi déjà, je fais les choses à ma façon, comme je suis. Je n'essaie pas d'être différente, d'aller contre ma propre nature ou ce que je ressens. Je vis pleinement ma foi chrétienne. Donc ça me donne beaucoup de joie et beaucoup de facilité, de simplicité dans mon service.
Moi, la question, je la trouve excellente, excusez-moi, parce que vous parlez de complémentarité. Comment, finalement, on exerce... Et pour moi, c'est hyper important, c'est très important de ne pas vouloir faire comme les autres et d'être avec sa spécificité. Alors nous, prêtres et diacres, on le sent, on le voit bien qu'on ne peut pas... Même si parfois on est tenté par le cléricalisme, mais la diversité de l'Église, religieux, religieuse, prêtre, diacre, l'évêque, j'allais dire chacun à sa place, mais pas, voilà, chacun qui puisse donner tout son élan, toute sa dimension. C'est vraiment comme ça que l'Église, elle peut grandir dans les complémentarités des uns et des autres. Ça veut dire, parce qu'on rejoint notre thème, ça veut dire qu'il faut accepter des façons de faire différentes. Et moi, je vous avoue, comme responsable de la diaconie, parfois, ça m'arrive souvent de penser « Oh là là, mais moi, j'aurais certainement pas fait comme ça. » Mais allons-y. Parce qu'en face, je vois quelqu'un qui a le feu, il y a quelqu'un qui y croit. Eh bien, j'encourage, même si moi, j'aurais pas fait comme ça. Et ça demande quelque part d'être bousculé. Et moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont en responsabilité, à faire comme ça. Les parents aussi, parfois. Quand on est papa, quand on est maman, se dire « Ben moi, j'aurais pas fait comme ça. » Ce qu'on a envie, c'est on a envie de rectifier la barre en disant mais voilà, si mon enfant il fait pas comme j'ai envie de faire, c'est qu'il fait mal. Il fait différemment. Il fait différemment. Et quelque part, lui permettre de prendre toute sa dimension, c'est lui permettre de s'épanouir. Et c'est bon pour toute la famille. Parce que quand on essaye de mettre nos enfants sous cloche, qu'on essaye de les conformer à ce que l'on est, à ce que l'on pense, ça crée des tensions dans les familles. Alors que quand on permet à chacun d'exercer sa dimension, c'est bon pour la famille, c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour les parents. Pour l'Église, c'est la même chose. Quand on permet à chacun de prendre toute sa dimension, pour nos amis migrants, pour nos amis des gens du voyage, même pour les prisonniers, permettre à chacun que l'on puisse trouver leur place. Ça c'est quelque chose qui est fondamental au service de la diaconie. On a sans cesse ce souci que finalement tout le monde puisse trouver leur place.
Vous avez envie de réagir, Mélissa?
J'ai envie de dire qu'on arrête, vraiment on cesse d'évoluer quand on pense qu'on n'a plus rien à apprendre des autres. Ça, franchement... Si on regarde l'autre comme s'il était transparent, il n'a rien à m'apporter, ou je sais tout mieux, je fais tout mieux. Non, on n'évolue plus, on ne grandit plus, surtout dans la charité.
Surtout dans la charité.
Moi, j'ai vu des communautés qui, justement, parce qu'elles se sont mis à l'écoute de celui à qui on pensait qu'il ne pouvait plus rien apporter, parce que handicapé en fauteuil roulant, ou parce que trop éloigné, ou dans la rue, etc. Quand, finalement, la communauté se met au diapason de cette personne où la société pense qu'elle n'a plus rien à apporter, ça met le feu dans toute la communauté.
Et donc, on en revient. On avait terminé la première partie de ce Vivante Église sur ces communautés, ces paroisses, et puis l'accueil, et mettre le feu, peut-être là où il n'y a plus le feu. On parlait de cette complémentarité. Au fond, la complémentarité et l'accueil ne peuvent venir aussi que de la rencontre et d'une écoute qui soit vraie et authentique. On imagine que dans vos différentes pastorales, ce qui prime, c'est, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, ça vous tient très à cœur à vous, l'acte de charité, la charité envers le prochain et peut-être aussi envers nous-mêmes.
Oui, parce qu'à travers eux, on se voit aussi, on se voit.
Donc, c'est un miroir.
C'est un miroir, franchement, c'est un miroir et un très beau miroir.
Lieu de conversion pour vous-même.
Oui, lieu de conversion. Ça me fait grandir, surtout en charité, parce que moi aussi, chez moi, je voyais les autres comme des étrangers. Donc, quelque part, le fait d'être étrangère ici, ça me permet de m'ouvrir davantage.
Père Michel.
Je reviens un peu en arrière, mais la question, comment servir le Christ, je pense que ça vient aussi de ma situation ministérielle maintenant, où je ne suis plus en responsabilité première, mais prêtre. Je dirais que je suis amené à beaucoup d'humilité. À savoir que le Christ ne m'a pas attendu, il est là, ce que disait Sébastien, il est là déjà, il est présent, dans les personnes, tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les aumôniers d'hôpitaux quand ils vont voir une personne, et voilà, d'une certaine manière, je n'aime pas trop l'expression de porter. On ne porte pas le Christ.
Non.
On les découvre présents et vivants dans l'Esprit Saint, dans les personnes. Alors bien sûr, il y a un moment où il va y avoir une parole explicite, une annonce, certes, mais voilà, il me semble que pour moi ça a été fondamental, Je suis très sensible à ça et je me dis, ça t'invite à beaucoup d'humilité. Parce que est-ce que tu es capable de voir cette présence du Christ? C'est le mystère de l'incarnation. Voilà, il ne faut pas l'oublier.
Alors, comment, à travers vos missions et cette complémentarité aussi dans vos différentes missions, comment ne pas se décourager quand on est confronté, et vous êtes chacun ici autour de cette table confronté à des personnes, ces personnes parfois en souffrance, ces personnes parfois exclues, où il y a cette différence au quotidien. Sébastien Combre.
Moi, j'ai envie de dire que ça coule de source. C'est-à-dire que quand on est... plus les gens ils sont dans des situations compliquées, difficiles, plus ils transpirent le Christ. Et plus ça donne de l'espérance. Je veux dire, tous ceux qui ont fait l'expérience de la vie, de la coopération missionnaire, reviennent de pays, de bidonville, de favela, en disant « mais il y a le feu là-bas sur place ». Mais c'est pareil hein, pour... des familles qui vivent la grande précarité, des enfants qui sont placés, des difficultés scolaires, etc. Et un nouveau-né qui a pas, la maman qui retombe enceinte, et là tout renaît. Et l'espérance au-delà de toute espérance. Et quelque part, quand on accompagne les gens voilà, sans les casser en disant, parce que on pourrait se dire oui, enfin bon, c'est bon, ton affaire, tous tes enfants ont été placés, lui va être placé aussi, voilà. Mais quand on rentre dans l'espérance, en fait, les gens nous entraînent dans leur espérance. Quelque part, c'est se laisser évangéliser par ceux qui sont le plus en souffrance. Pareil pour un deuil finalement, hein, parce que parfois il y a vraiment de l'espérance dans un deuil quand les gens ils ont quelque chose à nous apprendre. Moi, une dame qui s'est fait renverser en vélo là au Mirail, mais son mari évidemment une tristesse parce qu'elle était vigoureuse, elle avait des belles années encore devant elle, mais un témoignage de foi qui donne envie de croire, qui montre du doigt finalement. On touche du doigt le royaume de Dieu dans ces situations-là. Et c'est pour le coup, quelque chose est évident. Mais il faut se laisser bousculer, il faut se laisser rencontrer finalement.
Au fond, il faut sortir de ces zones de confort.
Il faut,
et en sortir.
Il faut trouver d'autres zones de confort, parce que c'est aussi confortable, l'espérance. C'est le monde.
Oui.
Le monde nous fait croire que être auprès des plus pauvres, c'est pas confortable. C'est pas vrai. C'est l'espérance, c'est confortable. Être dans les bras du Seigneur, c'est confortable.
Ah oui, vous voulez réagir, Mélissa.
Nous portons chacun une pauvreté. Nous sommes tous des pauvres. Hein. On a tous une fragilité. C'est pas le pauvre que je viens sauver. Je suis pas Dieu. Ouais. C'est Dieu qui nous sauve. Donc, si je me vois comme l'autre, je vois le Christ en l'autre, le même Christ qui est en moi et dans mon prochain, ça me permet d'être vrai avec lui, de l'accueillir sans préjugés. Et puis, surtout, vous disiez tout à l'heure comment on fait quand les personnes sont très découragées. Mais c'est dans ces moments-là qu'on prie, on prie intensément et on voit que ces personnes aussi prient beaucoup. Cette prière-là débouche sur vraiment... l'espérance, l'espoir. Parfois, nous, on est un peu désespérés, mais eux, ils sont plus confiants. Ils espèrent encore. Mmh. Parce que c'est des gens comme nous qui aspirent à rire, à être heureux, à chanter, à danser. Donc, ils espèrent. Ben, ils ont raison d'espérer.
Alors, on entend, quand je vous écoute, Mélissa, et ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui, même vous, Sébastien, ces personnes qui sont parfois dans la précarité, dans la souffrance, au fond, vous évangélisent, vous, qui êtes des missionnaires, et à leur service, qui êtes ces bons samaritains, eux-mêmes deviennent des samaritains pour vous. C'est ce qu'on pourrait parfois entendre.
Oui, parce qu'il y a des situations, moi, je me dis, mon Dieu, dans ce cas-là, je serais au fond du trou, mais quand je vois l'autre qui est encore debout, qui espère, qui croit, mais j'ai honte et ça me secoue. Je me lève aussi pour prier.
Moi, je dirais que ce qu'on vient de dire là, ça nous invite au réalisme, à regarder la réalité des personnes telle qu'elle est. Parce que je vois bien, je m'en rends compte moi-même, je vois bien que on a tendance à projeter sur les autres nos schémas, nos idées, alors que tout ça, il faut faire le deuil de tout ça et se mettre devant la personne telle qu'elle est. le réalisme pour rencontrer les personnes telles qu'elles sont.
Voilà. En fait, ces personnes que vous décrivez dans vos missions complémentaires sont des témoins et vous enseignent. Vous avez un enseignement au quotidien. Sébastien, si je
La vocation baptismale, c'est de se sentir, de se reconnaître aimé par le Christ. Et de reconnaître le Christ dans tous les lieux où il s'est... où il a dit qu'il se manifesterait. Et dans les évangiles, il y a trois lieux où il a dit qu'il se manifesterait. C'est ce qu'on appelle le Triam Munera, pour ceux qui sont un peu savants. C'est-à-dire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Dans les sacrements, la célébration, Dieu se manifeste. Et dans les plus pauvres. Enfin, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ce Matthieu 25. La vocation baptismale, prier... reconnaître, prier, aimer, lire la parole de Dieu. Et c'est indissociable. Le pape François disait que si nous faisions que servir, finalement nous étions une ONG et que l'Église n'était pas une ONG. Et c'est pour ça que quelque part, dans le service de la diaconie, nous proposons pas de colis alimentaires, nous proposons pas de cours de français, nous sommes en lien avec ces associations qui le font, parce que sinon, qui se mettra à l'écoute pour permettre à ce que les trésors qui sont partagés par nos amis migrants, handicapés, les gens du voyage, les prisonniers, puissent être entendus par tous les chrétiens, parce que c'est le Christ, il se manifeste là. Voilà. Donc quelque part, l'Église, elle a à permettre que l'on célèbre ensemble, elle a à permettre que l'on entende la parole de Dieu, mais qu'elle permette aussi à ce qu'on entende ce que les plus pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, soif, etc., ont à nous dire.
Alors on parle de l'Église, on parle aussi de l'accueil, puis de nombreux défis. Alors on parlait aussi des paroisses et des différentes communautés. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les paroisses sont dans cette dynamique, cette préparation de l'accueil de toutes ces personnes que nous avons évoquées au cours de ce Vivante Église, même si c'est bref. Mélissa,
c'est un peu difficile parce que souvent les migrants sont dans une case. Dès qu'on dit migrants, ça fait peur, on pense à beaucoup de situations difficiles qu'on colle à tort ou à raison aux étrangers. Et justement, eux, ils ne veulent pas qu'on les mette dans une case de migrants, de ceci, de cela. Non, je suis moi. Et voilà, pour pouvoir vivre librement et apporter ce que j'ai, pour pouvoir grandir dans ce que je veux, je suis et pouvoir le donner aux autres, j'ai besoin d'être reconnu en tant qu'être humain simplement.
Alors, juste une petite piste, parce que je pense que ça sera compliqué de développer.
On ne pourra pas développer.
L'évêque de Toulouse parle de conversion personnelle et collective. Et je crois que ça se joue dans ces deux niveaux-là, dans les paroisses. C'est-à-dire que chacun puisse se convertir, parole de Dieu, célébration et accueil des plus pauvres, mais qu'aussi institutionnellement, collectivement, nous puissions nous organiser pour ça. Si nous voulons entendre ce que les personnes en fauteuil roulant ont à nous dire, que nous puissions vivre la fraternité avec eux, le minimum, c'est qu'ils puissent rentrer dans nos églises. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et quand on va visiter des églises, les curés, par exemple, nous disent « Oui, notre église est accessible. La mairie a fait tout pour que ça soit vrai. » Et c'est vrai. Et alors, quand je leur pose la question, mais comment ils font pour lire la parole de Dieu ? Ah bah non, parce qu'ils ne peuvent pas monter dans le cœur. Et voilà. Et en fait, moi je me dis que si nous sommes attentifs à ce que les personnes en fauteuil roulant puissent monter dans le cœur, eh ben, la mamie qui lit la parole de Dieu depuis 40 ou 50 ans et qui souhaite continuer à le faire, mais qui n'ose plus le faire parce que pour monter jusqu'à l'embon, il lui faut 10 minutes parce que les escaliers sont trop hauts, eh ben, voilà, si on met une rampe, ça profite à tout le monde. Ceux qui sont le plus en difficulté, pareil pour si on simplifie nos homélies parce que pour qu'elles puissent être comprises, etc., nous poussent à l'excellence. Et cette excellence, elle profite à tout le monde. Et c'est encore une fois trop dommage de ne pas focaliser notre attention sur ceux qui souffrent le plus parce que c'est comme ça que nous pouvons avancer. Puis l'Église, elle ne peut être catholique que si elle est pour tous. Et si elle en met certains sur le côté, Eh ben, elle n'est plus catholique, à bon entendeur.
Voilà, tout à fait. Vous êtes direct, oui. Oui, donc l'Église, et pour tous, c'est au fond, vous rappelez que cette Église, c'est le Christ, et que le Christ est pour tous. Donc, encore un travail de conversion collectif sur un plan ecclésial, Sébastien Combre, que quand on vous écoute, l'Église est ce collectif que nous représentons, laïque, pratiquant, peut-être moins pratiquant, a besoin encore de se convertir. C'est un appel à la conversion. Version donc individuelle, on l'entend,
oui, mais c'est ça. Mais je crois que de manière, les théologiens férus me contrediront pas. Une minute avant la fin des temps, nous aurons toujours à nous convertir. Voilà, c'est la conversion, c'est le chemin normal de l'Église.
Oui. Et on va laisser la parole au Père Michel. Oui.
Puisque nous sommes au cœur du temps pascal, c'est la liturgie que j'aime beaucoup. C'est le temps par excellence de faire des passages dans notre vie, de faire des Pâques, hein. Comme Marie-Madeleine qui voulait continuer la relation avec Jésus qu'elle avait avant, mais c'est plus possible, il faut qu'elle entre dans une autre relation. Donc c'est l'Église du ressuscité, et le ressuscité, il nous bouscule. Le ressuscité, il est en avant de nous, il nous invite à aller au large et à nous laisser bousculer, à avancer. Hein, voilà.
Alors, merci à tous les trois pour vos interventions. Mélissa Bougie, voilà, et puis nous vous souhaitons de poursuivre cette belle mission, hein, de la pastorale des migrants. Donc, aux côtés, on entend bien, on parlait de collectif, on parlait de complémentarité, mais ce service de la diaconie dont vous êtes vous-même, Sébastien Combre, responsable, il y a toute une équipe. Hein, et puis, vivre donc ces différences, ces différents ministères dans une même communion avec ce feu de l'Esprit Saint, voilà. Merci à tous les trois, merci Père Miguel, merci Sébastien Combre, et merci vous-même, Mélissa Bougie. À très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.